Radio Prague, les informations.
Vladimír Špidla a été élu membre de la présidence du Parti socialiste européen. Le Premier ministre tchèque Jan Fischer participera à la conférence sur le climat à Copenhague. Et puis une précieuse miniature de la ville tchèque de Kutná Hora a été achetée à Londres par le Conseil régional de Bohême centrale. L'eurocommissaire tchèque sortant Vladimír Špidla a été élu membre de la présidence du Parti socialiste européen, le PSE, dont le congrès se poursuit à Prague. C'est la première fois qu'une rencontre au sommet du PSE, qui représente le deuxième groupe du Parlement européen, est organisée dans un des nouveaux États membres de l'Union européenne. Le congrès réunit plus de 1200 délégués des partis sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes d'Europe, ainsi que les premiers ministres d'Espagne, de Grèce, de Slovaquie, les leaders du PS français, du SPD allemand, plusieurs présidents du Parlement et d'autres invités encore. L'élection de la nouvelle direction du parti a été le thème principal du congrès. L'unique candidat au poste de président, l'actuel leader du PSC, Poul Rasmussen, a été reconduit dans ses fonctions à la majorité des voix. Le Premier ministre tchèque Jan Fischer a confirmé sa décision de participer à la conférence de Copenhague sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le mandat adopté la semaine écoulée par le gouvernement ne prévoit pas la présence du président de la République, Václav Klaus, à cette manifestation. Cette semaine est toutefois parue au Danemark la traduction du dernier ouvrage de Václav Klaus, « La planète bleue et non pas verte », dans lequel l'auteur met en garde devant, je cite, « l'hystérie des environnementalistes et l'abus du thème du réchauffement de la planète ». Pour les plus de 100 chefs d'État et de gouvernement présents à la conférence de Copenhague sur le climat sous l'égide de l'ONU, l'enjeu est de jeter les bases du futur accord qui succédera au protocole de Kyoto, dont la fin est fixée à 2012. Après une grève spontanée mercredi dernier d'environ 400 employés des ateliers de montage de l'usine automobile Hyundai installée à Nowoszowice dans le nord de la Moravie, le syndicat de l'usine a lancé lundi un préavis de grève, une façon de protester contre les mauvaises conditions salariales et les 2 heures quotidiennes de travail supplémentaires imposées par la direction. Les négociations entre les syndicats et la direction de l'usine se poursuivent ce mardi. Le constructeur automobile Hyundai, constructeur sud-coréen, emploie dans ses ateliers de Nowoszowice près de 2000 personnes. Et puis je vous le disais en titre, c'est ce mardi qu'a eu lieu dans la salle Sotheby's à Londres une vente aux enchères d'une miniature tirée d'un incunable du 15e siècle représentant les travaux dans les mines d'argent de la ville de Kutná Hora. Et c'est le conseil régional de Bohême centrale qui a remporté la vente à plus de 650 000 euros. L'œuvre va devenir un des objets les plus précieux exposés dans la galerie de Bohême centrale de Kutná Hora et sera mise à la disposition des chercheurs de la bibliothèque nationale, qui envisagent de l'examiner. On termine avec un mot sur la météo. Ce mardi, fête de toutes les Kvetoslava selon le calendrier tchèque. Le temps en Tchéquie est couvert avec de la pluie, notamment sur l'ouest du pays. Les températures diurnes ne dépassent pas 6 degrés. Mercredi, le ciel en République tchèque sera couvert avec encore de la pluie par endroits et les températures se situeront entre 2 et 6 degrés Celsius pour les maximales. Le bulletin d'information vous était présenté aujourd'hui par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Les drogues font l'objet d'une nouvelle initiative proposée par le gouvernement. Nous vous en dirons plus au début de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Ensuite, nous parlerons du cardinal Josef Beran, personnage qui a eu le courage de s'opposer au régime communiste. 40 ans se sont écoulés cette année depuis sa mort. Cap ensuite vers l'Institut français de Prague qui accueille un intéressant événement culturel. Bonne écoute. Le cabinet tchèque a adopté un projet d'amendement sur les drogues d'origine végétale lundi et a décidé quelles plantes figureront dorénavant dans la catégorie des stupéfiants. Le projet définit également les limites de poids et de quantité de substances actives au-delà desquelles la détention de ces drogues sera considérée comme un délit pénal par sa fréquence.
L'amendement entrera en vigueur à partir du 1er janvier prochain. Parmi les plantes figurant dans la catégorie des stupéfiants figurent par exemple le cannabis, le coca, les espèces de cactus contenant de la mescaline, ainsi que les psilocybes, une espèce de champignon hallucinogène. La ministre de la Justice, Daniela Kovářová, précise les limites pénales de détention de ces drogues.
En ce qui concerne les champignons, à partir du 1er janvier, leur quantité ne devra pas dépasser 40 pièces. Quant aux plantes, il ne faudra pas que leur nombre soit supérieur à 5.
Tout cela signifie que les drogues en République tchèque seront désormais classées selon leur degré de nocivité et que les détenteurs de drogues d'origine végétale seront jugés moins sévèrement que jusqu'à présent. Jakub Friedrich de la Centrale nationale antidrogue souligne cependant que le gouvernement se doit surtout de définir les limites de substances actives dans les plantes et rappelle que le projet ne déculpabilise pas entièrement les consommateurs de drogues dites douces.
Tato hranice, která určuje množství větší než malé, vypovídá pouze o tom.
Cette limite qui définit la quantité de drogue nous indique seulement à partir de quelle quantité la possession sera obligatoirement qualifiée de délit pénal et inversement, quelle quantité ne sera considérée que comme une contravention. Cela signifie que la détention de n'importe quelle quantité de substance interdite par la loi est toujours illégale et cet amendement n'y change rien.
Je protiprávní. Na tom tato novela nic nemění.
Le psychologue Ivan Douda de la fondation Drop-In estime, lui, cependant qu'il est inutile de considérer comme contravention même la possession d'une petite quantité de drogue. Il pense que même les saisies de quantités plus importantes de stupéfiants devraient être examinées au cas par cas.
Cela veut dire qu'il faut savoir pour quelle raison une personne possède telle ou telle quantité ou pour quelle raison ces plantes ou ces champignons sont cultivés. Parce qu'il y a aussi la possibilité de cultiver le cannabis à des fins médicales ou techniques. Il faut donc se réserver un espace pour l'examen de chaque cas individuel. C'est ce qui devrait être prioritaire au lieu de dire si c'est beaucoup ou peu.
Dans 15 jours, le cabinet Jan Fischer se penchera également sur la problématique des stupéfiants synthétiques.
Une statue dédiée au cardinal tchèque Josef Beran a été dévoilée lundi devant le séminaire archiépiscopal dans le quartier de Davidsed à Prague. Une façon de rappeler et de rendre hommage à l'une des figures marquantes de l'histoire nationale du XXe siècle. Le cardinal Miloslav Vlk explique.
Son attitude ferme à l'égard du régime communiste a été et demeurera toujours source d'inspiration. Il défendait les valeurs du bien et de la vérité au moment où l'idéologie de la haine et du mensonge allait avoir dans le pays le dessus. Il n'a pas hésité à s'y opposer, sachant que la liberté était une valeur absolument indispensable pour la vie de l'homme et de la société.
Prêtre et professeur de théologie, Josef Beran a été victime de persécutions tant sous le nazisme que sous le régime communiste. Arrêté après l'attentat contre Reinhard Heydrich en 1942, il a été détenu dans les camps de concentration de Terezin et de Dachau. Devenu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale archevêque de Prague, sa position face aux autorités communistes qui ont pris le pouvoir en février 1948 a été catégorique. L'Église catholique n'allait pas se soumettre à leur dictat. Jusqu'au début des années 60, Josef Beran a été rigoureusement poursuivi par la police d'État, ce qui lui a valu des internements à différents endroits du pays et l'interdiction de séjourner à Prague. En 1965, le pape l'a nommé cardinal. Autorisé à se rendre à Rome, il n'a pas eu en revanche la possibilité de retourner ensuite dans son pays d'origine. C'est donc à Rome que le cardinal Beran a passé le reste de sa vie pour participer activement au légendaire Concile Vatican II. Il est mort en mai 1969. Pour le cardinal Miloslav Vlk, le legs de Josef Beran est toujours d'actualité.
Même quand on a acquis la liberté, il y a lieu de défendre les valeurs qui étaient les siennes. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, 20 ans après la chute du régime communiste, nous devons faire face à l'agressivité, à l'extrémisme, à l'hostilité à l'égard des minorités et à beaucoup d'autres phénomènes néfastes encouragés par la haine. L'histoire nous enseigne qu'avec la haine et le mensonge, il ne faut pas faire de compromis.
La dépouille de Josef Beran repose dans la crypte de la basilique Saint-Pierre à Rome, lieu de repos des papes. Cet honneur n'a jusqu'ici été réservé à aucun autre tchèque. L'Institut français de Prague propose en décembre deux soirées consacrées à Serge Gainsbourg. Deux soirées au cours desquelles l'on peut entre autres découvrir que Gainsbourg n'a pas seulement été un parolier et interprète de génie, mais aussi qu'il s'est laissé tenter par le cinéma. On écoute le critique de cinéma Michal Prokaska au micro de Anna Kubista.
Si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la cigarette. On la jette plus facilement.
Alors, cette charmante phrase avec laquelle tout le monde ne serait pas d'accord forcément, c'est une phrase de Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui est au programme de l'Institut français pour une soirée, donc c'est mardi.
C'est en fait, c'est pour deux soirées.
Deux soirées.
La première commence mardi à partir de 9h. Et l'autre soirée va suivre dans une semaine, ça veut dire 15 décembre.
Comment est née l'idée de faire ces deux soirées? On sait que Gainsbourg, il y a eu quand même un anniversaire l'an dernier, l'anniversaire de sa naissance.
En tout cas, le point de départ, c'était aussi l'anniversaire de l'année érotique 69, hein, qu'on fête en tout cas, pas forcément maintenant, mais en tout cas pendant cette année. Ici, comme on a pu voir pendant le festival du cinéma français à Prague, les gens connaissent toujours la nouvelle vague. C'est quelque chose qui était devenu un symbole, presque un symbole français. Et on s'est dit que ça serait utile de présenter, de montrer aussi les personnages clés des années 70, les années qui ont suivi, qui ont quand même changé complètement la perspective. Donc si Serge Gainsbourg dit par exemple qu'il aurait choisi une cigarette et pas une femme, je comprends que c'est plutôt une provocation, c'est plutôt un sens d'humour assez sardonique, mais aussi un commentaire qui dit que cet idéal, cette rhétorique un petit peu amoureuse de la nouvelle vague était une quelque chose de connerie, était une quelque chose un petit peu de la réalité.
Donc Serge Gainsbourg provocateur, ça c'est clair, c'est quelque chose de connu. Serge Gainsbourg chanteur, compositeur, mais Serge Gainsbourg également cinéaste. Et c'est en effet dans ce cadre de ces soirées que l'Institut présente des films faits par Serge Gainsbourg. C'était un aspect un peu moins connu de Serge Gainsbourg. Un film qui s'appelle « Je t'aime moi non plus », qui est le titre éponyme de sa fameuse chanson. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler justement de ce film, en quoi est-ce qu'il est intéressant, en quoi il fait découvrir un autre Serge Gainsbourg aussi?
On essaye de présenter, de montrer le deux, le trois côtés de lui. Ça veut dire que on va commencer par la projection du film « Je t'aime moi non plus ». Mais en fait, après, on va projeter le film de William Klein, « Mr. Freedom », qui va présenter Serge Gainsbourg en tant que le compositeur, mais aussi en tant que l'acteur. L'idée de tourner le film est venue de la musique de l'album assez connu qu'il a chanté premièrement avec Brigitte Bardot et après avec Jane Birkin, après qu'ils se sont rencontrés. Ce film témoigne une poétique assez sardonique de Gainsbourg. On trouve trois personnages, deux hommes et une femme, qui croisent le paysage un petit peu surréel, un paysage du monde détruit, où ils partent pour une enquête de la réalisation de leur désir.
Alors, juste une dernière question sur Gainsbourg et sur cette chanson, notamment sur « Je t'aime moi non plus ». Je me souviens, quand je suis arrivée en République tchèque, avoir entendu comme ça dans un magasin la chanson. Il se trouve qu'en plus, c'était un supermarché, allez savoir pourquoi. La chanson « Je t'aime moi non plus ». J'étais surprise d'entendre Gainsbourg ici en République tchèque. Il est connu finalement des Tchèques? Ou comment est-ce qu'il a été connu, s'il l'a été? Et puis, en plus, pour quelqu'un d'aussi provocateur, ça m'étonnait quand même un peu qu'il ait passé les frontières.
Il est à la fois connu et inconnu. Je connais beaucoup de gens qui parlent français, qui sont tombés un petit peu amoureux de la culture française à travers Gainsbourg. Mais en même temps, beaucoup de films, beaucoup d'albums, hein, beaucoup de musique, beaucoup des œuvres de lui est complètement inconnu aussi.
Je t'aime. Je fais et je viens,
mais je me retiens.
C'était donc les faits et événements en République tchèque. Le programme en français de Radio Prague se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Bonjour, dans le panorama d'aujourd'hui, nous allons parler d'un de nos sujets favoris, les relations franco-tchèques, ou plutôt franco-tchécoslovaques. Jerzy Hrnilica est historien, enseignant à la faculté de pédagogie de l'université Charles et doctorant à la Sorbonne et au CFRES de Prague. Il vient de publier un livre sur l'histoire de l'Institut français de Prague et c'est donc cette histoire qu'il retrace aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Prague.
L'Institut français, d'abord, est conçu en tant qu'un lieu centralisant les activités françaises en Tchécoslovaquie. Donc, d'abord, c'est un lieu, et c'est la raison pourquoi, en sous-titre, j'ai entre l'enseignement et la propagande, parce que c'est un lieu où on propose l'enseignement universitaire ou semi-universitaire, mais en même temps, c'est un centre qui propose la propagation, la propagande de la culture française en Tchécoslovaquie. La date 1920 n'est pas anodine parce que c'est après la Première Guerre mondiale où toutes les activités françaises s'enracinent en Tchécoslovaquie. On a le lycée français qui est créé en même temps. On a les sections tchécoslovaques dans le lycée français. Et on a l'Institut français de Prague qui voit le jour en même temps que l'Institut des études slaves à Paris. Donc, mettons que c'est la pointe de la pyramide des activités culturelles françaises en Tchécoslovaquie. D'abord, cet institut français est un lieu où on propose des conférences en français au public large tchécoslovaque. On y enseigne la littérature, on y enseigne la civilisation française, on y enseigne l'histoire, on y propose des cours au grand public. Mais au fur et à mesure, et c'est ça ce qui est important pour l'histoire de cet institut, et ça fait un peu sa particularité parmi d'autres instituts français en Europe centrale, au fur et à mesure, on y propose aussi les études de droit, les études de technique, les études de médecine, et en fait, c'est ça ce qui fait la particularité de cet institut dans les années 30. Si on met des dates précises pour marquer l'évolution de l'Institut, on a 1920 comme la création. On a la première période de André Thibal, le premier directeur, jusqu'à 25. Et après, c'est Louis Eisenmann qui arrive en 25, qui reste le directeur jusqu'à 37. Et en fait, c'est lui vraiment le personnage clé de la coopération franco-tchécoslovaque à un moment donné. C'est lui qui donne la direction à l'Institut. C'est lui qui crée de cet Institut un centre actif, un centre très ouvert, un centre tout à fait particulier pour la propagande et l'enseignement. Sa politique, c'est vraiment de s'enraciner, de s'intégrer dans le système universitaire. Donc, à part la littérature, on propose les cours assez techniques, ça veut dire surtout le vocabulaire scientifique, pour des des étudiants universitaires aux grandes écoles techniques de la Tchécoslovaquie et ensuite pour les médecins aussi. L'Institut d'Evian en partenaire au système universitaire tchécoslovaque et son importance est qu'il arrive à attirer juste un peu avant Munich en 38 à peu près 1000 étudiants inscrit régulièrement dans ses cours. Donc c'est vraiment un centre très actif pour tout ce qui est la coopération culturelle entre les deux pays.
On connaît effectivement un peu l'histoire de l'Institut français de Prague comme un institut assez important en Europe centrale. On s'enorgueillit souvent que l'Institut français ici à Prague a accueilli des personnalités comme Mary qui va fonder plus tard le journal Le Monde. Pourquoi Prague? Est-ce que, à part le travail de Louis Eisenman, est-ce qu'il y a une volonté politique derrière?
Il y a les deux choses. Il y a une volonté politique française de s'intégrer dans ce pays nouvellement créé après la Première Guerre mondiale. Mais de l'autre côté, il y a aussi une demande tchécoslovaque, notamment de l'université Charles, mais aussi de l'école technique. Et l'intérêt, pourquoi on coopère avec l'institut du point de vue tchécoslovaque, c'est parce que le français devrait remplacer l'allemand en tant que la langue de communication internationale. Donc, on choisit le terrain de l'institut en tant qu'une base de communication avec l'étranger.
Est-ce qu'il y avait une concurrence malgré tout? L'anglais était déjà la langue internationale. Comment ça se passait pendant l'entre-deux-guerres ici?
Évidemment, il y avait une concurrence, mais en même temps, dans l'entre-deux-guerres, la France a une conception politique culturelle à l'étranger qui est de loin la plus précise, la mieux conçue. Il y a bien sûr l'Institut italien, il y a l'Institut américain, il y a l'Institut anglais aussi, mais qui n'ont pas du tout la même place parce que c'est plutôt des activités personnelles, individuelles, de quelques personnalités qui sont amateurs d'une langue ou de l'autre. Mais il n'y a pas derrière une vraie politique culturelle, une vraie subvention officielle.
Les gens qui travaillaient pour les instituts français, que ce soit à Varsovie, Prague, Saint-Pétersbourg, étaient des universitaires et ils faisaient partie de ce plan, cette nouvelle conception de la politique culturelle qui était une nouvelle diplomatie culturelle ou en tout cas quelque chose de très planifié, stratégique. Est-ce que les universitaires avaient l'impression ou se rendaient compte qu'ils étaient un petit peu les instruments d'une politique internationale ou est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça ou est-ce qu'il y avait des critiques sur leur propre rôle?
Je pense que du point de vue français, il y a déjà deux positions. Il y a ceux gens qui enseignent et qui vivent à Prague, qui font partie du corps de professeurs réguliers, et ceux qui viennent pour des missions scientifiques. Donc ceux qui restent à Prague, en général, c'est des jeunes docteurs, des jeunes agrégés, des jeunes gens qui commencent leur carrière. Pour eux, enseigner à l'Institut, ce n'est qu'un passage. Un passage pour une autre carrière, soit à l'étranger, soit en France. Beth Mary, sa réputation d'ailleurs, il l'a fait après en France, en créant le journal Le Monde. Son rôle à Prague était assez important pour la formation des jeunes juristes, souvent sortis des sections tchécoslovaques à Dijon ou à Nîmes. Mais en même temps, toute sa réputation vient après de tout ce qu'il devient après la guerre. De l'autre côté, vous avez, et ça c'est assez intéressant, on les appelle les missionnaires. Donc, on rentre bien dans le thème, dans le sous-titre, entre la propagande et l'enseignement, comme si la France devait avoir une mission culturelle dans les pays slaves, c'est vraiment le terme de l'époque, comme si cette mission devrait être culturelle, comme si cette mission devrait être vraiment une propagation d'une culture contre une autre culture, la culture germanique. Et il est vrai que l'Institut, dans ces cas, sert en tant qu'un centre d'organisation de séjours des scientifiques français en Tchécoslovaquie. Grâce aux soins de l'Institut, on voit à Prague, dans l'entre-deux-guerres, tous les grands noms de la science française. Et on peut dire que l'Institut, en fait, a vraiment une position centrale dans l'organisation de la coopération scientifique, pas seulement culturelle, de l'entre-deux-guerres entre la France et la Tchécoslovaquie. Thank you.
C'était donc le panorama avec Anne-Claire Véhuire. J'espère bien que le thème évoqué dans cette émission vous a bien intéressé, parce que je vous propose d'écouter la deuxième partie de cet entretien dans la rubrique Culture, le magazine culturel qui sera diffusé dimanche. Et c'est ainsi que se termine tout le programme en français de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 14.